au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Oui, nous sommes jeudi, c'est le 4 septembre. J'espère que vous avez passé une belle journée. C'était chaud quand même pour le mois de septembre. Ça part bien au mois de septembre depuis le début de la semaine. Chaud et ensoleillé aujourd'hui. À l'émission, on aura l'occasion avec Jacques Plante de parler de ce remaniement du gouvernement caquiste qui s'en vient la semaine prochaine. Peut-être le début des grands départs. On va parler aussi avec Doudou Sow que vous avez entendu hier. Il est de Lanaudière économique. Il sera question cette fois de la toute première édition du tournoi de soccer interculturel de Lanaudière. On va rendre hommage à notre façon à ce grand Québécois qui est Guy Rocher, qui nous a quittés à l'âge de 101 ans. Mathieu Bélanger, analyste politique, sera là pour parler de lui également. Notre commentateur politique, Pierre Paquette. Mais tout d'abord, comme les autres associations de médecins omnipraticiens, celle de Laurentier de Lanaudière, se braque contre le projet de loi 101 qui vise à imposer en quelque sorte là, un mode de pratique puis une rémunération aux médecins. François Morin en a discuté avec la présidente, la docteure Lynn Couture.
On regarde là, les faits saillants, là, on voit qu'il y a au moins 45% des répondants qui envisagent de changer leur pratique de façon très significative, là, donc soit quitter pour une autre province, prendre leur retraite, réorientation de carrière, etc. Alors ça, c'est quand même très inquiétant. Et si on regarde à l'opposé, ceux qui comptent pas faire de changement, c'était moins de 19%. Alors c'est sûr que ça, c'est inquiétant, mais rappelons que ce sondage-là a été fait en juin pour nous. Il a été compilé en juin et que la situation évolue avec le temps. Donc, le projet de loi 106 n'avait pas été adopté encore. Donc, c'est avant, là. Il y avait un risque de baillon et tout et tout. Donc, on est un petit peu, je pense qu'il faut quand même mettre ça dans le contexte. Et aussi, l'autre fait, c'est qu'à cette période-là, moi, je me promenais puis je rencontrais les membres pour leur dire, écoutez, prenez pas de décision prématurée quand même. Ce projet de loi-là a le temps d'évoluer. On va essayer qu'il soit mieux que ça, parce qu'actuellement, c'est vraiment pas bon pour la population. Et si jamais il est adopté, ben écoutez, il y aura peut-être la contestation. Donc, attendons. T'sais, parce que moi, ce que je veux, là, c'est que mes médecins ils continuent à soigner le monde. Là. Vous allez dire, c'est drôle comme position, mais au total, c'est ça. Nous autres, on a du monde à soigner. Là. Fait qu'on veut pas que les gens fassent des gestes prématurés. Mais malgré ça, c'est ce que ça donnait. Puis actuellement, la situation évolue. Puis je vous dirais que, ouf, c'est pas nécessairement plus favorable que ça l'était en juin.
Bon, ben justement, là, le ministre Dubé a fait une sortie tout récemment, là, le point sur la table. On a l'impression là, qu'il n'est pas du tout dans la négo, mais plutôt dans l'affrontement.
Malheureusement, on a effectivement encore cette impression-là, nous aussi, parce que, vous savez, en fait, le projet de loi 106, là, c'est une négation de la réalité, là. Je veux dire, c'est pas parce que demain matin, il dit, bon, ben, demain matin, là, tout le monde va être affilié à une clinique. Ça, c'est pas compliqué à faire, là. En dedans d'une semaine, le Québec au complet est affilié à une clinique, mais ça veut pas dire qu'ils vont avoir des services à cette clinique-là, parce que nous autres, on n'a pas plus de ressources. Et si on était capable de donner des services à toute la population, des services de qualité, pas de la médecine McDo, là, ben, on le ferait déjà. La raison pour laquelle on le fait pas, c'est parce qu'il manque 2000 médecins de famille au Québec, au moins 125 dans Lanaudière, puis qu'on a besoin d'une équipe autour du médecin si on veut travailler mieux et différemment. Fait que ça c'est une affaire. Puis l'autre affaire qui est vraiment troublante dans ce projet de loi-là, c'est le fameux article 8 qui dit, bah, vous pouvez négocier tant que vous voulez, là, mais moi, à la fin de la semaine, là, je me garde l'option de dire que je décrète vos conditions unilatéral, qu'est-ce que vous allez faire puis combien vous allez gagner. On négocie-tu vraiment quand quelqu'un nous dit ça? Puis je vous rappelle que nous, comme médecins, on est travailleurs autonomes. On n'est pas des employés de l'État.
Ça vient un peu mettre de l'huile sur le feu, la lecture que j'en fais, parce que les résultats, si jamais on décrétait les conditions de travail, les résultats font faire en sorte qu'il va y avoir encore plus de départs, peut-être des départs à la retraite anticipée, une expertise qui va se perdre.
Bien, ce qu'on essayait de dire à nos membres, de dire, écoutez, voici l'état du projet de loi, mais ne soyez pas trop... Prenez votre temps, regardons la situation, parce qu'on veut pas que les troupes fuient, comme vous le mentionnez. Ben moi, pendant l'été, j'ai des gens qui m'ont contacté pour me dire, ben sais-tu, j'ai mon permis de pratique au Yukon, j'ai mon permis de pratique en Ontario. Puis pendant ce temps-là, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick faisait des beaux yeux à nos membres, là, parce qu'ils se disent, ben écoute, puis c'est drôle, hein, même les publicités du Nouveau-Brunswick disaient, vous voulez travailler à temps partiel? Chez nous, c'est parfait. Alors, puis on vous rappelle que des médecins à temps partiel, chez nous, c'est 40 heures semaine. Là. Alors, c'est vraiment troublant de voir ce gouvernement-là garder la ligne dure alors qu'il y a une pénurie, alors qu'il y a urgence à organiser les choses. Nous, on l'a entendu, hein, nous, on a dit, écoutez, faisons un arbitrage, tu sais, c'est pour la population. Puis à date, Monsieur Dubé a dit non, il n'est pas question d'arbitrage. Alors, pour nous, c'est inquiétant.
Qu'est-ce que l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lenordière, ou même en plus haut lieu, la FMOQ, propose au gouvernement pour améliorer la rémunération?
En fait, c'est même pour améliorer la rémunération, vous dites, c'est même pas un enjeu central pour nous autres, la rémunération. Bien sûr qu'il faut que ça suive l'inflation, parce que depuis 2018, il y a eu de l'inflation, puis pas pour nous. Alors, c'est sûr que nous, il y a une perte de pouvoir, puis les loyers ont monté, là. Je rappelle que les médecins de famille qui travaillent en bureau payent leurs pieds carrés, payent leur personnel, payent leurs meubles, payent tout ça. Tout ça a monté, puis je pense que tout le monde comprend que son loyer a monté, mais c'est la même affaire chez nous. Mais nous, notre rémunération n'a pas suivi. Donc, il y a une perte. Alors, est-ce qu'on va vouloir avoir quelque chose de raisonnable? Certainement. Mais c'est pas ça, nous, l'enjeu principal. Nous, l'enjeu principal, c'est que pour qu'on puisse donner plus de services à la population, ça nous prend une équipe autour du médecin. C'est ça, pour nous, le cœur du problème. Puis, est-ce qu'on est prêt à changer notre façon de pratiquer? Ben oui, on est prêt à le faire, parce que pour nous, c'est de donner des services, puis on est dans une situation de pénurie, fait qu'il faut qu'on soit capable de diviser la job. Et ça, qu'est-ce que nous, on va faire spécifiquement à la molle pour ça? Ben, on veut rencontrer les députés pour leur expliquer la chose. Malheureusement, à date, on n'a pas une grande réponse favorable. Oui, j'ai rencontré la chef du caucus de Lanaudière au début de l'été, mais la situation évolue. Puis malheureusement, elle évolue pas très favorablement. Là. Puis quand je dis ça, je veux pas inquiéter personne, surtout pas la population, mais j'ai des cliniques qui commencent à me dire, ben, si ça passe de même, là, notre avenir à nous est incertain. C'est pour ça qu'il faut que je rencontre les députés, pour qu'ils comprennent l'urgence de la situation, parce qu'il faut pas perdre nos médecins en place. Ça, là, quand on perd des médecins en place, c'est des patients qui ont plus de service. C'est important.
Je veux revenir sur un point important, on s'en était déjà parlé, le ministre Dubé lui-même avait avancé ça sur la place publique, c'est qu'effectivement, là, on puisse diriger les gens malades ou les gens qui ont un problème de santé vers le bon professionnel. On n'est plus là.
Ben, en fait, on n'est plus là. On peut y être encore, là. Puis nous, notre objectif, c'est que ça y soit encore, parce qu'il faut que ça soit ça. On manque de médecins. Alors, oui, c'est important que les patients puissent voir le professionnel qui réponde à leurs besoins. Maintenant, tu sais, si vous êtes un travailleur, un journalier qui a de la misère à joindre les deux bouts, puis que le navigateur, parce que maintenant, quand vous appelez au GAP, et il vous pose plusieurs questions, puis il vous dit, voici, donc vous avez mal à une cheville, vous pourriez aller voir le physiothérapeute. On est très d'accord que le patient aille voir le physiothérapeute, c'est probablement le meilleur professionnel qu'il pourrait voir. Mais si ce physiothérapeute-là, il vous charge 100, 150, 200 $, je ne sais pas là, combien il charge pour une heure avec le patient, si vous avez de la misère à joindre les deux bouts, vous allez peut-être dire non, puis aller quand même voir le médecin de famille qui, lui, prend la carte d'assurance maladie. Puis on le comprend, ça. Fait qu'il y a des ajustements à faire, puis pas juste avec nous, là.
C'était la docteure Lynn Couture, la présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière. Dans un moment, on va revenir sur le décès du sociologue d'origine lanaudoise Guy Rocher à l'âge de 101 ans, qui aura droit d'ailleurs à des funérailles nationales. On va en parler avec Mathieu Bélanger, également Pierre Paquette.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, L'Expert Dépanneur. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napol. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, Marché Express Ultramar Saint-Félix. Dépanneur Proxy Extra et Marché IGA Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, L'Expert dépanneur. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imri, dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Le marché authentique de Notre-Dame-de-la-Merci vous invite au marché médiéval du samedi 6 septembre. Le marché se transforme en royaume. Animation grandeur nature et combat à l'épée. Duo traditionnel à cordes. Menu festif du 376 bistrot charcuterie. Dégustation du cocktail Le Druide. Décor en partenariat avec les médiévales de Lanaudière, Fanion, Drapeau, Magie et Mystère. Plus de 20 exposants agroalimentaires et artisans des joies de la table. C'est un rendez-vous au 1900 montée de la réserve à Notre-Dame-de-la-Merci le 6 septembre. Dès 9h30. Hey!
Pour débuter la saison du crapaud, Musique à Bouche sera en spectacle le samedi 13 septembre à 20h. Les billets sont disponibles en ligne au crapaud.qc.ca.
Vous avez des nouveaux services à offrir? Un talent à partager? Des conseils à donner? Des chiens à promener, des massages à donner, des prothèses à fabriquer. Vous avez une bonne idée. Vous voulez vous lancer. Informez-nous, on le fera savoir. Venez vous faire voir. Visitez notreentourage.ca pour voir.
La Clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Les orthèses plantaires. Efficaces pour soulager plusieurs pathologies des pieds. Fabriquées sur mesure, elles s'adaptent à votre style de vie et vos chaussures. Prenez rendez-vous pour un examen biomécanique. 450-398-PIED. 398-7433 ou podiaoutjoliette.com.
Au concert du dimanche à CFNJ, Francis Cabrel. Le concert du dimanche, dimanche matin, 7h à CFNJ.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Alexis, Lavaltrie, Sainte-Julienne, Saint-Gabriel.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Ici, la musique américaine, on laisse ça à Trump.
Lanaudière PM, politique provinciale.
Ouais, le Québec social et politique est en deuil avec le décès hier du père de la sociologie au Québec, Guy Rocher, père également des cégeps. Ce Lanaudois d'origine, il faut le dire, a été un participant actif du renouveau au Québec dans les années 60, lors de la Révolution tranquille. Et François Morin a discuté tout d'abord avec notre analyste politique, Mathieu Bélanger, de ce grand bonhomme qui était Guy Rocher.
Définitivement, on peut difficilement surestimer la contribution de Guy Rocher à la société québécoise de plusieurs façons, que ce soit par ses publications, son enseignement, ses publications de manuels de la sociologie, de sa participation évidemment à la création des cégeps, sa participation à la commission Parent qui a mené à la création des cégeps, la création du ministère de l'Éducation. C'est un des révolutionnaires tranquilles. Mais non seulement ça, non seulement sa contribution dans les années 60, mais il est demeuré actif toute sa vie jusqu'à dans les quelques dernières années, à commenter la politique, à partager ses connaissances, à faire des analyses. Jusqu'à récemment, il était dans une commission, il avait participé à une commission parlementaire pour apporter son témoignage concernant les projets de loi de la CAQ sur concernant la langue française. Donc, énormément actif toute sa vie. Jusqu'à vers la fin, une immense contribution. Évidemment, éventuellement, tout le monde doit passer par là, tout le monde doit mourir un jour. À 101 ans, c'était rendu le tour de Guy Rocher. À 101 ans, il n'a pas démérité, là, loin de là.
Et vous l'avez mentionné, il a été à l'origine effectivement de grandes institutions au Québec, les cégeps. Il n'était pas là non plus de la création de l'Université du Québec à Montréal, et on sait qu'après ça, il y a eu le réseau des UQ un peu partout. Alors donc, effectivement, on parle d'une grande contribution là, à l'ensemble de la société québécoise.
L'éducation pour lui était une priorité. D'où sa grande contribution. Il était enseignant à l'université pendant une large partie de sa vie. Mais l'éducation au sens large, une réflexion sociologique, politique sur l'éducation, au-delà de donner des cours ou d'accompagner les étudiants, mais sur comment le système d'éducation doit fonctionner. Effectivement, que ça soit par initialement l'UQAM, éventuellement tout le réseau de l'Université du Québec, que ça soit par, comme je le mentionnais, la création des cégeps, que ça soit par la création du ministère de l'Éducation. Une vision qu'il avait, il était évidemment plutôt de gauche. Il croyait à l'implication de la société, de l'État, pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir une bonne éducation et que ça allait ouvrir la voie à la population québécoise pour rattraper, à l'époque, là, quand on se replace dans les années 60, le retard qu'on avait en termes d'éducation par rapport à d'autres sociétés comparables, par exemple l'Ontario, et surtout au niveau des francophones au Québec, l'a grandement contribué justement à cet essor-là de la société francophone québécoise dans les années 60-70. Et il croyait que comme ça, par l'acquisition de la connaissance, les gens et la société dans son ensemble allaient pouvoir atteindre plus atteindre plus de richesse, finalement, que ce soit d'un point de vue là, matériel, en termes de dollars, que de richesse au niveau culturel, au niveau de connaissances. Donc, encore une fois, là, une grande contribution à l'ensemble de l'éducation là, au Québec.
Et sans parler d'implication partisane, on peut quand même mentionner qu'il a aussi contribué à l'élaboration de la Charte de la langue française devenue la loi 101.
C'est pour ça que on est encore dans les enjeux d'éducation. La loi 101, après tout, a eu un grand impact dans l'éducation. Rappelons quand même que la loi 101, c'est la loi qui, si on le simplifie et le résume, là, entre autres éléments, mais en ce qui concerne l'éducation, la loi qui obligeait dorénavant les francophones, les immigrants à aller à l'école en français, avec toujours une protection là, pour ce qui est des minorités anglophones. Initialement du Québec, finalement, ça aurait été du Canada, avec des modifications qui ont été apportées à la loi suite à des jugements des tribunaux. Mais donc, une protection pour les minorités qui sont nées au Canada, qui parlent anglais, qui ont fait leur éducation en anglais, de continuer leur école en anglais. Il avait cet amour-là de la langue française aussi. Il considérait que c'était important que l'école puisse justement être faite en français, protéger ce milieu-là, avec toujours une protection pour les anglophones. C'est à ce titre-là aussi qu'il a continué à faire part de ses idées tout au long de sa vie, justement, notamment concernant les enjeux d'éducation, concernant les enjeux linguistiques, comme je le mentionnais précédemment, là, jusqu'à participer à une commission parlementaire là, il y a à peine quelques années, toujours concernant justement la place du français, il jugeait qu'il fallait s'assurer que tout le monde, finalement, que le socle français du Québec puisse être préservé.
En terminant, j'imagine qu'on peut non pas seulement retenir, mais continuer à appliquer ce que moi j'appellerais les enseignements de Guy Rocher.
C'est sûr qu'il est déjà enseigné depuis fort longtemps en sociologie, en sciences politiques, qui est mon domaine, dans toute l'explication de la société québécoise. On le disait, c'est le père de la sociologie québécoise. Et sa vision du monde, ses façons de faire, ça fait déjà longtemps, parce que même s'il est décédé hier, on le mentionnait, il a été actif pendant des décennies, et donc ça fait déjà longtemps qu'il est enseigné dans les cégeps, dans les universités québécoises, et jusqu'à preuve du contraire, ça risque de continuer pendant encore très longtemps, tellement son œuvre aurait été monumentale pour l'histoire du Québec.
Bon, voilà, c'était notre analyste politique, Mathieu Bélanger. Rappelons que Guy Rocher aura droit à des funérailles nationales. Il n'y a pas encore de date de déterminer, là, mais ça viendra. Et puis, notre collaborateur Pierre Paquette a bien connu Guy Rocher dans ce deuxième entretien qui a été mené par François Morin. Pierre Paquette raconte d'entrée de jeu la conversion de son ami sociologue à l'indépendance, la cause de l'indépendance du Québec.
Alors, Pierre Paquette, vous avez bien connu Guy Rocher. En fait, tout le monde connaissait Guy Rocher, mais le monde politique et social là, est en deuil. Et Guy Rocher, ce que les gens ne savaient peut-être pas, c'est que c'est un fervent souverainiste.
Oui, c'était un fervent souverainiste. C'était converti, si je peux m'exprimer ici, dans les années 60. Il nous avait raconté ça. C'était en essayant de convaincre des Français du fait que le Québec serait capable, tout seul, d'assumer ses responsabilités, qui s'est lui-même convaincu de la pertinence de la souveraineté. Alors, il nous racontait ça, et depuis, évidemment, il était resté un fervent souverainiste jusqu'à la fin. Encore il y a quelques mois, on a fêté son centenaire aux intellectuels de la souveraineté, et puis il était là, il nous a fait une conférence d'à peu près une demi-heure, très bien structurée. Alors, il avait vraiment toute sa tête jusqu'à la fin de sa vie.
Et il a réussi quand même dans sa carrière, parce qu'il est enseignant, à garder quand même une certaine neutralité. Ses opinions politiques, il ne les imposait pas à personne.
Ah non, ça c'est extrêmement important. Puis il tenait ça, très bizarrement, d'un professeur qu'il avait eu au Collège de l'Assomption. Et il nous racontait ça, que ce professeur-là avait toujours un ton très... modéré lorsqu'il présentait ses cours, et qui avait voulu, comme, pas copier, là, mais s'inspirer de ce professeur dans sa pédagogie. Alors, évidemment, il voulait pas imposer quoi que ce soit au plan intellectuel. Bon, évidemment, il y avait ses opinions, et ses démonstrations arrivaient à des conclusions très, 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 très solides. Mais imposer par autorité ses idées, c'était pas dans sa philosophie du tout. Et c'était aussi un homme d'action. Ça, c'est important de le rappeler à vos auditeurs. Il a été sous-ministre à plusieurs occasions dans les gouvernements du Parti québécois pour des projets de loi qui étaient des projets qui étaient extrêmement importants. On parle de la Charte de la langue française et puis un certain nombre d'autres dossiers liés à la culture québécoise.
Et je pense, en terminant, qu'on peut dire que encore aujourd'hui, son enseignement demeure d'actualité.
Ah, tout à fait. Et puis, on voyait dans les derniers débats, que ce soit sur la laïcité ou la défense de la langue française, il est intervenu jusqu'à la fin. Et puis, ses convictions ne l'ont jamais abandonné. Mais c'était aussi un bon vivant. Je peux vous dire, peut-être en terminant, une petite anecdote. Je suis allé avec lui à une conférence en Europe, à Bilbao, dans le Pays Basque, au nord de l'Espagne. Et un matin, on se rend au lieu de la conférence. Il dit, oh, Pierre, on va arrêter. On va prendre un petit blanc, un petit verre de blanc. Et c'est une habitude que j'avais quand j'étais étudiant à Paris. Alors, on a pris un petit verre de blanc avant de se rendre à la conférence. Il a été aussi majestueux que d'habitude.
Alors, vous m'ouvrez une porte, Pierre Paquette. On peut quand même dire en terminant, et là, c'est vrai, que Guy Rocher n'était pas du genre du stéréotype d'intellectuel renfermé sur lui-même.
Ah oh non, au contraire, c'était un extraverti très doux. Encore une fois, il n'imposait pas ses idées, mais il les défendait avec beaucoup d'acharnement. Et il faut se rappeler que, quand même, c'est un fier lanaudois.
C'est la disparition, avec la disparition de Guy Rocher, là, c'est la fin d'une génération là, de grands bonhommes politiques au Québec, de sociologues, oui, mais de politiciens. Je pense à des Bernard Landry, des Jacques Parizeau, qui étaient également là, de cette génération-là. Il est 16h29.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La 40 Ouest pour Charles de Gaulle, ça devient un peu plus dense à partir de Marien, mais rien de très grave. Là. Nombreux là, jusqu'Henri Bourassa pour la suite des choses. On accède assez facilement à Charles de Gaulle. Traversée de la rivière des Prairies, un peu nombreux. Du côté de Repentigny, la 40 en direction Est. Ouais, ça va quand même assez bien. Un peu plus nombreux, secteur industriel. Pour le gardeur, approche facile. Oui, autant par Sherbrooke que Notre-Dame, 25 Nord. Ça demeure dense là, depuis la métropolitaine et ce, jusqu'au boulevard Boulevard-Peyrat. On traverse quand même aisément vers Laval, un peu plus nombreux secteurs de la jonction avec la 25. Pont Sophie-Masson, passablement chalandé en ce moment, autant à l'approche que pour la traversée de la rivière des Mille-Îles. Et finalement, autoroute 640, pas si mal dans les deux directions, entre la 25 et la 40. Les nouvelles dans un instant.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Retrouvez le plaisir de manger grâce aux implants dentaires. La pose d'implant permet la stimulation de l'os visant à conserver sa densité osseuse en plus de servir d'ancrage à votre prothèse. Qu'elle soit partielle ou complète, la prothèse sur implant permet de retrouver une force masticatoire considérable en plus de vous redonner une stabilité. Rien à voir avec une prothèse conventionnelle. Du même coup, ces bénéfices vous redonneront la confiance de sourire.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Le 12 octobre à 19h30, Cybercible vous invite à un spectacle bénéfice au Centre culturel Desjardins. Martin Deschamps et ses invités de l'émission La Clé des Champs seront sur scène pour une soirée de musique et de solidarité. Les billets sont à $50 et disponibles sur le site cybercible.org et sur la page Facebook de Cybercible. Les places sont limitées. Tous les profits soutiennent une cause d'inclusion sociale. Soyez des nôtres.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, Joliette.com.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier Proprio Direct. Hey!
Pour débuter la saison du crapaud, Musique à Bouche sera en spectacle le samedi 13 septembre à 20h. Les billets sont disponibles en ligne au crapaud.qc.ca.
Oh, ma dodo, oh, ma dodo, oh, ma dodo, oh, ma belle grosse Donalda.
Ce bulletin de nouvelles régionales vous est présenté par Alimentation au Croque, votre expert local en nutrition animale. Une équipe passionnée et à l'écoute des besoins de votre compagnon. Rendez-vous à Saint-Jean-de-Matha et Saint-Gabriel-de-Brandon.
– 16h32, salut Pierre.
– Salut Claude.
Problème de circulation, tout d'abord là, du côté de l'Assomption.
– Oui, congestion à prévoir, si c'est pas déjà le cas, sur la 341. Importante entrave, la circulation se fait en alternance pour une durée indéterminée. Ça, c'est près de l'intersection du bas, l'Assomption Nord. –
Oui, ben, exactement, la rivière. –
C'est la voie ferrée. Ouais. Là, c'est le Canadien national qui doit procéder à des travaux d'asphaltage d'urgence, alors...
Prenez votre mal en patience dans ce coin-là. Oui, on va parler de remaniement ministériel. Ça s'en vient pour la semaine prochaine. Les départs de ministres, est-ce qu'ils vont se succéder au Québec? C'est la question là, que tout le monde se pose.
Oui, c'est ça. Il est peut-être un peu tôt pour parler d'odeur de fin de régime, mais je crois que ça ne saurait tarder. Et aujourd'hui, c'est André Laforêt qui a annoncé qu'elle quittait la politique provinciale. Elle a occupé le poste de ministre des Affaires municipales. Elle va se lancer dans la course à la mairie de Saguenay.
Après des mois de rumeurs, André Laforêt confirme qu'elle quitte son poste à titre de ministre pour se lancer en politique municipale.
Merci vraiment, M. Legault, pour votre confiance. Je suis prête maintenant. Aux citoyens de Ville-de-Saguenay, le temps est venu de construire et de s'accomplir.
Elle affirme que sa décision n'est pas reliée aux difficultés vécues par la CAQ et au remaniement ministériel annoncé par le premier ministre.
Il n'y a pas la question du remaniement parce que faut comprendre que même il y a quelques jours, j'étais avec M. Legault, donc je pars pas parce que j'aurais eu une démotion, ça, je vous le dis tout de suite.
Questionnée sur l'enquête au commissaire à l'éthique qui est toujours en cours concernant un potentiel conflit d'intérêts en lien avec la garderie de ses filles, Mme Laforêt affirme être confiante que le rapport sera positif.
La seule chose que moi je vois, c'est que j'ai peut-être pas raccroché assez rapidement un citoyen, mais c'est une histoire qui va se terminer ici. Je suis très confiante. C'est à la commissaire à l'éthique de déposer son rapport tout simplement.
Hugo Ouellet, Cogeco Nouvelles, Saguenay.
Et puis, déjà une annonce à ce niveau-là. Pierre, c'est France-Hélène Duranceau qui va succéder aux affaires municipales.
Oui, elle va accumuler les deux postes, ministre de l'Habitation et ministre des Affaires municipales. Et voilà.
Parti québécois, j'allais
oublier, qui réclame des élections rapidement à Chicoutimi. Pascal Bérubé, le député plutôt péquiste de Matane-Matapédia, affirme que M. Legault doit doit faire preuve de respect à l'égard des citoyens du comté.
Bonne nouvelle, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes du côté de Bridgestone. Le travail pourrait reprendre sous peu.
Oui, on se croise les doigts. Les équipes d'informaticiens effectuent des tests de redémarrage afin de s'assurer de la sécurité des systèmes affectés par une cyberattaque qui est survenue dimanche dernier. La compagnie affirme que les données sensibles des salariés et des clients n'ont pas été rendues accessibles et la direction locale doit aviser les travailleurs demain d'un possible scénario de reprise des activités. On écoute le président du syndicat, André Corribon.
Tout ce qui a pas à faire avec des équipements informatiques, des placements de matériel, du matériel qui ont dépassé la date limite, et ils vont être remis en palette. Ça fait que oui, il y a de certains travaux manuels qui ont été qui vont être obligés d'être faits avant le redémarrage. On ne produit pas de pneus à l'heure qu'on se parle.
Bras de fer maintenant entre les médecins et le gouvernement qui provoque une importante remise en question.
Oui, il y a un sondage de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière qui a été réalisé en juin qui indique que 45 % des répondants envisagent de changer leur pratique, soit en prenant leur retraite, en quittant pour une autre province ou en réorientant leur carrière. Selon la présidente de l'association, la docteure Lynn Couture, la rémunération n'est pas l'enjeu principal des négociations avec Québec.
Nous, l'enjeu principal, c'est que pour qu'on puisse donner plus de services à la population, ça nous prend une équipe autour du médecin. Puis est-ce qu'on est prêt à changer notre façon de pratiquer? Ben oui, on est prêt à le faire parce que pour nous, c'est de donner des services. Puis on est dans une situation de pénurie, fait qu'il faut qu'on soit capable de diviser la job.
Et puis, on termine maintenant sur le Parti libéral qui va mettre l'accent sur l'économie cet automne.
Oui, les tarifs, on s'en doute, les tarifs américains seront au cœur de la rentrée parlementaire. Mmh. Et les libéraux étaient réunis en retraite fermée à Toronto. Et les négociations avec les Américains risquent évidemment de dominer l'agenda. On écoute Stéphane Boucher.
Les libéraux préparent la rentrée préoccupée par la guerre commerciale. Le premier ministre Carney a d'ailleurs prévenu hier que le prochain budget en sera un d'austérité. Selon François-Philippe Champagne, ministre des Finances, les tensions avec les États-Unis ont forcé Ottawa à revoir ses priorités.
Il faut s'assurer qu'on a un niveau de dépenses qui est raisonnable pour libérer de l'espace fiscal pour faire des investissements.
Ces investissements, espère le gouvernement, apporteront de la croissance à long terme dans un objectif ultime, renchérit Mélanie Joly, ministre de l'industrie.
Notre focus, c'est quoi? C'est vraiment travailler sur le fait de protéger les emplois.
Le gouvernement libéral reste par ailleurs confiant en ces temps de turbulence.
On fabrique des navires, on fabrique des avions, on fabrique des automobiles.
La rentrée parlementaire débute le 15 septembre à la Chambre des communes. Stéphane Boucher, Cogeco Nouvelles.
On aura d'ailleurs l'occasion, parce qu'on a parlé dans ce bulletin à Pierre Jubinville du remaniement ministériel qui s'en vient la semaine prochaine. On va revenir là-dessus avec Jacques Plante là, tout à l'heure.
Alors, bonne soirée, mon cher Claude.
Merci, Pierre.
Bye.
Au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM Sport.
Terrebonne va accueillir le 6 septembre prochain la toute première édition là, du tournoi de soccer interculturel de Lanaudière. Les équipes de toutes les MRC de Lanaudière qui vont se disputer les grands honneurs dans cet événement sportif dont l'objectif, ben, c'est notamment de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. Il n'y a rien de mieux que le soccer là, pour intégrer les nouveaux arrivants. C'est ce qu'explique Doudou Sau de Lanaudière économique à notre collègue Régent Turgeon.
Présentez votre nom et votre titre.
Doudou Sau, directeur du service de régionalisation de la main-d'œuvre immigrante chez Lanaudière économique.
Monsieur Sau, en fin de semaine, un premier tournoi de soccer interculturel de Lanaudière. Un, pourquoi et qui est derrière cette initiative-là?
Le premier tournoi de soccer interculturel de Lanaudière est organisé par Lanaudière économique. L'objectif est de favoriser le rapprochement interculturel, de faciliter aussi l'intégration des nouveaux arrivants. Et c'est dans le but, effectivement, de créer des ponts entre la communauté d'accueil et les personnes issues de l'immigration.
On peut penser à combien de jeunes qui vont être là, seront les équipes? D'où viennent-elles, ces équipes-là?
On s'attend à avoir plus de 200 personnes. Déjà, juste au niveau de la liste des joueurs inscrits, on est rendu à 127 joueurs. C'est 6 équipes composées de joueurs issus de diverses communautés ethnoculturelles qui habitent dans les 6 MRC. Donc, ce sont les 6 MRC qui vont s'affronter lors de cet événement festif et rassembleur.
Est-ce qu'on parle d'équipe mixte ou séparée, garçons-filles?
On parle dans un premier tournoi d'équipe masculine. Ça n'empêche pas, en fait, aux joueuses de venir parce qu'il y a d'autres terrains qui sont réservés à des cliniques de joueurs et aussi des pratiques d'habilité également. Donc, tout le monde a sa place au sein, en fait, de cet événement.
On a eu la difficulté ou non à recruter ces équipes-là parce qu'on a dû faire un appel là, dans les différentes MRC.
Effectivement, on s'est bien organisé parce qu'il y avait des responsables des équipes dans chaque MRC. On a fait aussi une promotion sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, on a été victime de notre succès parce qu'on a eu plus de joueurs requis également parce que les MRC également ont bien participé. Les organismes communautaires aussi qui travaillent avec nous, qui collaborent avec nous aussi, ont beaucoup aussi participé également dans l'organisation. Et puis, on a aussi une équipe de bénévoles, justement, qui nous ont aidés à ce que ce tournoi-là soit un succès.
Et on parle de jeunes joueurs, joueuses, de quel âge à peu près, là?
C'est de 18 ans, donc plus de 18 ans, en fait, à 55 ans, justement, oui.
Et là, c'est pas juste, vous l'avez dit tantôt, c'est pas juste une compétition sportive, là. Il y a plus que ça, là. Puis ça, j'aimerais explorer cette avenue-là avec vous.
Effectivement, l'objectif, c'est que les gens aient le fun et puis en même temps, trouvent du plaisir. Oui, c'est une compétition, mais on veut aussi permettre aux Québécois et aux personnes issues de l'immigration de trouver un terrain d'entente, on parle de soccer, à travers le sport, qui est un outil aussi d'intégration. Et on est dans une région lanaudoise qui a de plus en plus une diversité sur son territoire où, en fait, on essaie aussi de montrer à la population locale que l'immigration est une richesse, mais aussi on montre aux personnes immigrantes établies à Montréal et à l'extérieur également que Lanaudière est une région bien accueillante, mais où on fait nos choses également de façon stratégique, où aussi on prépare le milieu, mais aussi on prépare les nouveaux arrivants parce qu'on a aussi des employeurs qui ont besoin aussi de ces travailleurs également pour venir aussi assurer ou en tout cas contribuer à la croissance économique de la région.
Et là, est-ce qu'on doit penser que ces compétitions-là sont gratuites pour monsieur et madame tout le monde? Ça va se passer où et à quelle heure encore?
Donc ici, ça va se passer au complexe sportif Terrebonne, 2475 Boulevard des Entreprises, de 8h30 à 17h. L'événement est gratuit et on invite la population lanaudoise à venir véritablement faire une activité sportive, mais aussi apprendre aussi à se connaître, développer aussi des échanges interculturels. Parce que vous savez, le soccer, plus connu parfois, football dans d'autres pays, est de plus en plus populaire au Québec également. Mais aussi, c'est un sport aussi très rassembleur et on invite la population lanaudoise à venir se joindre à nous.
Est-ce qu'on a prévu un grand prix ou une reconnaissance aux équipes championnes?
Très bien. L'équipe championne aura déjà en fait un trophée qu'on remettra justement à la MRC de l'équipe gagnante qui va la garder pour un an parce que cet événement aussi sera réédité pour d'autres années également parce que comme on trouve que c'est une activité innovante, rassembleur également, on va l'organiser pour les prochaines années également.
C'est une première édition qui était très attendue.
Une première édition très attendue, rendue possible grâce au soutien du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration dans le cadre du programme d'appui aux collectivités.
Monsieur Sault, un gros merci.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.
Ben, c'est Régent Turgeon qui s'entretenait avec Doudou Sault de Lanaudière économique. Là, on parlait de cette toute première édition du tournoi de soccer interculturel de Lanaudière. Dans un moment avec Jacques Plante, remaniement du gouvernement caquiste, c'est la semaine prochaine. Ben, c'est le début des grands départs, l'impression.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, joliette.com.
Vieillir chez soi, c'est précieux. Chez Aide à domicile d'Autré, nous sommes complices de votre qualité de vie en vous offrant un accompagnement chaleureux, professionnel et à faible coût. Entretien ménager, préparation de repas et courses, nous sommes là pour vous permettre de demeurer dans le confort de votre domicile aussi longtemps que possible. Nos services s'adressent aux personnes aînées ou en perte d'autonomie dans toutes les municipalités de la MRC d'Autré. Parce qu'un quotidien plus doux fait toute la différence. Contactez Aide à domicile d'Autré au 450-404-2219, poste 2.
Vous cherchez un entrepreneur pour tous vos besoins en climatisation, réfrigération, chauffage ou ventilation? Ne cherchez plus! Turcotte Réfrigération de Saint-Cuthbert, c'est plus de 30 ans d'expertise à votre service partout dans la Naudière et les environs. Résidentiel ou commercial, l'équipe expérimentée de Turcotte Réfrigération s'adapte à tous vos besoins, sans oublier un service courtois et toujours personnalisé. Faites confiance à une entreprise familiale vous offrant les meilleures marques, telles que Gree, Mover et plusieurs autres. Turcotte Réfrigération, 450-836-7009.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Bonjour Claude, salut tout le monde.
16h46, et là ça a évolué au cours de la journée, c'est-à-dire que là on a appris le départ de la ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi-André Laforêt qui fait le saut en politique municipale pour se présenter au poste en fait de mairesse de la municipalité de Chicoutimi. On apprend maintenant, la course à la mairie de Saguenay.
De Saguenay, oui c'est ça.
Saguenay. Et on apprend que France-Hélène Duranceau va lui succéder au poste de ministre des Affaires municipales. France-Hélène Duranceau demeure à l'habitation.
Est-ce qu'on mentionne dans cette information-là que le remaniement qui est prévu pour le début de la semaine prochaine,
ouais.
Est-ce qu'elle s'est coulée dans le béton, là, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas remaniée ou elle va passer dans le tordeur?
Ben, en tout cas, si on lui donne, si on la nomme là, tout de suite...
Mais là, ça prend quelqu'un pour boucher le trou, en attendant.
Oui, ouais, mais c'est clair que d'après moi, elle va le garder, elle va rester là.
Si ça va bien comme avec le logement, ça va bien aller dans les affaires municipales.
Bon, là, ce qu'on peut voir, là, c'est que c'est le début des grands départs à la CAQ. Il y en a eu déjà quelques-uns dans ce dernier mandat-là, mais ça va très, 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 très mal selon les sondages. On a une élection, puis on se retrouve avec zéro député caquiste, c'est à peu près ça. Et là, évidemment, le Parti québécois qui saute là-dessus en disant ça prend rapidement une élection partielle dans Chicoutimi. Pourquoi? Parce que le PQ est convaincu, selon les sondages, de faire élire un autre député dans une partielle. Alors, le PQ veut en profiter pour se faire du capital politique.
De toute façon, on est à 8-9 mois avant une élection.
C'est 6 mois maximum selon la loi pour une partielle.
Exactement. Et là, on va voir qu'est-ce que le parti au pouvoir va décider de faire, s'ils vont étirer la sauce jusqu'au bout.
Ce qui serait totalement ridicule parce que tu sais à quel point c'est dispendieux une élection partielle. Mm-hmm. Et là, on fait une élection partielle, puis 3-4 mois après, on repartirait en élection générale. Ça n'a comme pas de sens.
Oui, oh, puis c'est surtout pour les gens aussi. Là,
c'est de prendre des électeurs pour des comptes.
La fièvre des pancartes, c'est pas autour. Et d'accroche, retourner voter, puis c'est du niaisage, évidemment. Mais ça brasse beaucoup. C'est pas vraiment une surprise le fait que. Parce que moi, je lève mon chapeau à M. Galland et sa commission, parce que c'est une commande du PM. Rappelez-vous, le PM avait dit on va faire toute la lumière, on va voir qu'est-ce qui se passe. La lumière, ils l'ont sur eux autres, pas à peu près, la CAQ, là, évidemment. Et j'ai trouvé que Galland avait du toupet parce qu'il a même invité à témoigner le premier ministre du Québec, son chef de cabinet et le secrétaire général. Ça, c'est les trois les trois qui ont le pouvoir au Québec.
Exact.
Là. Et il les a demandés. Et tout ça, ça a changé le calendrier. Donc, le remaniement ministériel qu'on nous prévoyait pour cette semaine, on le reporte. On reporte le caucus avant l'entrée en session et on proroge la session.
Oui. Et là, est-ce que... Bon, on regarde la commission Galland. Il y a des têtes qui vont rouler suite à cette commission.
J'ai pas souvenir de ça, là.
Mais moi, j'ai l'impression que Geneviève Guilbeault...
Ben, j'ai pas souvenir de ça, moi. Je m'en rappelle pas.
Ah, oui, hein?
J'ai tellement écouté la commission,
toujours,
là,
c'est
que...
C'est toujours ça. Mais non, mais ce genre de commission-là, c'est toujours de même.
Non, mais...
On se rappelle plus, on le sait pas, on s'en rappelle pas.
Non, c'est parce que là, je me suis dit, et pour grand respect pour les gens qui sont pris de l'Alzheimer, mais là, on a un gouvernement qui se rappelle pas de rien.
Non,
et pourtant, sur nos plaques d'auto, c'est marqué « Je me souviens ».
Je me souviens pas de grand-chose. Mais
c'est une pièce de théâtre incroyable.
Selon toi, Geneviève Guilbeault, c'est une tête qui roule?
Et j'ai l'impression que oui, elle, c'est, ils ont donné de la corde. Mais je te dirais aussi...
Est-ce qu'elle démissionne?
Mais je suis à peu près sûr qu'elle peut avoir dit... Parce qu'on a vu dans la commission là, qu'elle a écrit un courriel et m'en a dit à M. Legault, puis à mon, je ne sais pas ses mots. Je suis à peu près sûr qu'elle a dit « Rends-moi service, François, ôte-moi cette job-là. »
Ah, peut-être aussi.
Parce que là, on parle du ministère des Transports. Il y a une rumeur. Et ça, la rumeur, elle vient d'un journaliste parlementaire sur la colline à Québec. Et c'est drôle parce qu'on dit toujours, selon des sources politiques non autorisées à nous parler. En tout cas, c'est vide de sens, là. Mais lui a dit, ça se peut même qu'elle perde la vice-présidence.
Ah, c'est fort probable.
Vice-premier ministre, là.
Et ses ambitions de remplacer un jour François Legault, on oublie ça, là.
Ouais. Mais c'est qui, Claude, qu'on va mettre à la place de ces gens-là? Parce que, tu sais, quand Fitzgibbon a levé les feutres, là, Fitzgibbon, c'était une star au sein de la CAQ.
Oui.
Là, Geneviève Guilbeault en emmène large, Dubé en emmène large, Drainville en emmène large, je vous dis ça avec une petite larme, là. Si il remanie ces gens, Dubé semble-t-il qu'il reste en poste.
Non, mais Christian Dubé, on sait qu'il se représente pas aux prochaines élections.
Lui, il a annoncé ses couleurs. Oui. Et ce que l'on sait, il reste en poste à la santé. Mm-hmm. Ça, on sait ça. Il a dû demander au PM en disant, gars, là, je vais lever les feutres, mais laisse-moi ça. S'il lui enlève, Dubé pourrait lever les feutres.
Mais je crois que c'est Christian Dubé qui est probablement le ministre qui fait encore bonne figure à la coalition américaine.
Ben, il a encore de la crédibilité, malgré le dossier qui n'est pas intéressant, son dossier, là. Mm-hmm. C'est pas évident. Mais, tu sais, on parle de Dubé, et ça me rappelle le mot qu'il a employé, les Top Guns. Ils vont être où, les Top Guns, à François Legault, après le remaniement?
Est-ce qu'il va prendre des députés d'arrière-ban pour les amener ministres?
Il y en a, m'a dit, qui ont accroché le chapelet sur la corde à linge.
Oui, certainement.
Mais ils ne pourront pas.
Et ils doivent espérer. Et si ces gens-là ne sont pas nommés ministres, est-ce qu'ils vont décider de ne pas se représenter ou carrément de claquer à la porte?
Ils vont peut-être regarder. Ils vont peut-être regarder dans leur paroisse qu'est-ce qui se passe le 2 novembre.
Oui, parce qu'il y a des élections municipales. Donc, tout comme André Laforêt pourrait bien se présenter
aux élections municipales. Exactement. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors,
c'est ce qui se passe quand il y a eu tellement de députés élus. Il était quoi, 90, 91?
89, avec le PM.
Oui, aux dernières élections. Alors, quand tu as autant de députés, tu dis qu'il y a des gens qui sont en arrière-ban, qui sont très déçus de ne pas être nommés à quelque part ministre. Bon, OK, on comprend tout ça. Et là, lorsqu'il y a un remaniement avec ces gens-là, sont pas nommés, là, c'est une double frustration.
Mais l'erreur de François Legault là-dessus, là, Claude, c'est au moment où on arrivait à peu près vers un an ou deux de mandat, il aurait dû faire un léger remaniement.
Oui, ce qui
n'a pas été fait parce que là, il joue avec ses gros joueurs et aujourd'hui, on voit où c'est rendu.
Merci beaucoup, Jacques. Je te souhaite un bon week-end parce que nous, on ne sera pas là demain. On s'en va en congé pour la fin de semaine. On va se retrouver lundi.
Ah oui, je n'ai pas souvenir de ça, moi. Salut, Claude.
Fin de semaine ne connaît pas ça.
Non, je n'ai pas souvenir de ça. Salut.
Je remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui. François Morin, également Régent Turgeon, Pierre Jubinville, Jacques Plante, que vous venez d'entendre ici, Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une belle fin de semaine. On va se retrouver lundi, 16h, pour une autre édition de l'Anneau d'hier PM. Manquez pas dans un instant la vie dans l'Anneau d'hier. Il sera question de Notre-Dame des Prairies. Et Nicolas Bellemare vous présente de l'autre côté de l'actualité de 17h, le 5 à 7 trad à CFNJ. Bye-bye.